Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez Radion, il est 11h, passé de quelques minutes, le moment est venu de retrouver Wagon Livre, votre émission littéraire, une heure avec un invité et puis une émission que nous avons enregistrée le 19 mars dernier en Côte d'Or, à Semur en Aussois, dans la galerie de peinture de Yannick Perrin, rue de Bourg-Voisin. C'est un événement. C'est le Cercle des auteurs bourguignons. C'est un événement régulièrement organisé par notre complice et ami libraire Cyril Lefebvre de la librairie de La Poste à Semur en Aussois. Le rendez-vous est assez régulier. D'ailleurs, on y retrouve parmi le public des visages réconfortants, des fidèles. Merci à vous, cher public, de nous accompagner. Je vous présente notre invité, bien sûr, dans quelques secondes. Et effectivement, aujourd'hui, invité du Cercle des auteurs bourguignons et par la même occasion, invité devant les micros de l'émission littéraire de Radion, nous accueillons Jean-Louis Fèvre. Bonjour Jean-Louis Fèvre.
Bonjour Yannick.
Alors cher Jean-Louis, nous allons nous tutoyer parce que nous nous connaissons depuis trop longtemps pour adopter le vouvoiement qui ne pourrait que nous nuire et peut-être nous demander trop d'efforts grammaticaux à changer le pronom, à mettre un vous, alors que amicalement, dans les salons du livre, là où nous nous croisons, nous utilisons le tutoiement. Et puis, tu le sais, Prévert dit dans sa chanson Barbara, « Je dis tu à tous ceux que j'aime. Or, moi, je t'aime et j'aime tes livres et j'aime ce que tu fais. » Donc, bienvenue à toi, Jean-Louis Fèvre.
Oui, on va se tutoyer, absolument.
Alors, on adopte ce tutoiement. Tu es l'invité du Cercle des auteurs bourguignons par notre ami commun Cyril Lefebvre, notamment pour ton dernier roman. C'est le plus récent de tes textes en prose. Roman qui a pour titre donc Mathurin, Petit Paris. Je souhaite d'abord que nous fassions un peu connaissance avec toi. J'en sais beaucoup sur toi, mais je vais te laisser la parole. Tes quatrièmes de couverture sont toujours extrêmement maigrichonnes sur les informations biographiques. Je dirais que c'est éthique. Attention à l'orthographe de éthique, dans le sens où je l'utilise. Par exemple, sur la quatrième de couverture de Mathurin, Petit Paris, ton dernier roman, je lis « À Aligny-en-Morvan, au moulin de Jarles, Jean-Louis Fèvre travaille à ses deux passions, l'écriture et la peinture. Le Morvan est la source de son inspiration. Son dernier roman, Le moulin des femmes, évoque les péripéties d'un moulin à eau. » Alors, je reviens sur les éléments. Aligny-en-Morvan, Moulin de Jarles, Morvan, trois entités géographiques que je vais te demander de commenter et de raconter un peu comment tu as atterri dans le Morvan.
Oui, alors, le Morvan, c'est une région qui m'a toujours attiré. Et c'est une région que j'aime beaucoup. Et en fait, je reviens à la plaque de Jean Genet que Mitterrand, le président, avait dévoilée dans les années 94, je crois. Et je suis né à Aligny parce que Jean Genet m'intéressait. Et c'est la première fois que je venais dans le Morvan, à Aligny, la première fois. Et qui aurait dit, à ce moment-là, que j'allais habiter à Aligny-en-Morvan. Un destin curieux.
Alors, tu es né dans l'Yonne.
Oui.
Pas très loin d'Avallon.
Oui. Petit village à Pont-Aubert, petit village entre Vézelay et Avallon.
Et alors, tu es vraiment, puisque tu es devenu instituteur, tu es le fruit de l'ascenseur social que permettait l'école de la République. Tu en es l'exemple, me semble-t-il.
Oui. C'est-à-dire, j'ai fréquenté l'école communale à Pont-Aubert et j'ai passé le certificat d'études, d'ailleurs.
Ça te fait sourire.
Oui.
Pourquoi donc ?
Mais c'était bien, je trouve.
Ah oui, oui.
Et donc, j'ai eu la chance, mes parents m'ont donné une grande chance de m'inscrire au collège d'Avallon après. Parce que je suis très reconnaissant à mes parents, qui étaient des modestes paysans, et qui m'ont donné la chance de poursuivre mes études au collège et au lycée d'Avallon.
Alors, il y a un homme, membre de ta famille, qui a son importance, dont tu as parlé dans un recueil de nouvelles paru il y a quelques années. Ce recueil de nouvelles a pour titre « Poussière d'enfance ». Et j'aimerais que tu parles de ce membre de ta famille pour lequel tu avais grande affection, grand respect, et c'est quelqu'un quelque part qui t'a guidé vers l'écriture. Et j'aimerais que tu nous révèles la puissance de cet homme.
Oui, c'est mon grand-père paternel. J'ai un souvenir... parce que, en fait, il est décédé, j'étais jeune, j'avais peut-être une dizaine d'années, à peine. Mais j'ai des souvenirs absolument fabuleux avec mon grand-père. Et ce grand-père, qui était maréchal ferrant, forgeron, écrivait. Alors, là, j'étais fasciné par ça, parce que je me disais, un homme aussi costaud, quoi, tout en muscles, pouvait écrire.
C'est-à-dire, tu te demandais comment un vulcain pouvait arriver à produire des petits caractères sur un cahier.
Et le soir, il écrivait, et moi, je le regardais, et ça me fascinait de voir écrire.
Alors, dans une nouvelle de Poussière d'enfance, tu te mets en scène avec ce grand-père que tu vas perdre, des suites de maladies, c'est un deuil qui t'a beaucoup pesé, et aujourd'hui tu possèdes les cahiers de ce grand-père. Alors, il n'a pas fait une œuvre, c'était pas les écrits d'Henri Vincenot, c'était parce que c'était un homme de la terre, un homme de l'artisanat, artisan des mots aussi d'une certaine manière, mais dans ces cahiers, ce sont des écrits intimes, enfin personnels. Que racontent ces textes ? Parce que tu m'as confié qu'ils avaient une certaine valeur et qu'ils couvrent une période de la France rurale, de la fin des 49 jusqu'à 1955 à peu près.
Voilà, donc il écrivait sur, par exemple... la météo, il aimait bien noter la température, le temps qu'il faisait, et aussi les événements familiaux. Les événements familiaux, donc les fêtes, les noces, les communions, tout ça. Et aussi, il parlait des événements du village. Parce que, comme il était maréchal ferrant, il voyait beaucoup de paysans qui venaient ferrer des chevaux.
Alors, tu as tous ces cahiers écrits sur plusieurs années.
Oui.
Tu figures dans les écrits ? Y a-t-il des passages qui te concernent ?
Non. Non.
Et les écrits de ton grand-père ont-ils un intérêt historique, sociologique ?
Je ne crois pas. C'est plutôt des anecdotes, des choses un peu, on va pas dire, pas littéraires. Pas des écrits littéraires, on va dire.
En ouverture de l'émission, je t'ai demandé de te présenter. Tout de suite, Aligny en Morvan et pour cause, tu as parlé de Jean Genet. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce poète voyou, voleur, défendant les minorités et les opprimés, parce que c'est aussi une réalité de Jean Genet, qui est mort, je crois, en 1986, je ne m'abuse. D'ailleurs, cette année, finalement, c'est un anniversaire.
Oui.
On va peut-être pouvoir un peu parler de Jean Genet, à Aligny, en Morvan et ailleurs.
Je veux bien.
Toi, tu es né donc dans Lyon, à Pont-Aubert, dans une famille d'agriculteurs à quelques kilomètres d'Avallon. Tu avais des frères et sœurs, tu as vécu dans un milieu de paysans.
Oui, j'avais deux sœurs, il y en a une qui est décédée, mais j'ai encore une sœur plus jeune.
Voilà. Alors, quelle était l'éducation que tu as reçue, toi qui plus tard as été instituteur et as transmis des valeurs et des savoirs?
Par mes parents.
Oui.
Oui. Alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, très reconnaissant de m'avoir permis de poursuivre mes études. Voilà. Et ensuite, ils m'ont donné des valeurs, on va dire, de tolérance, de pas... pas médire, pas des valeurs...
que de probité, d'accueil de voilà, l'autre, de respect de l'autre, de l'accepter tel qu'il est.
Tel qu'il est, voilà. Sans...
Mais tu avais la chance aussi d'être un garçon, parce que c'est peut-être pour ça que tu as pu continuer les études.
Oui.
Par rapport à tes sœurs, ça n'a peut-être pas été le cas pour tes sœurs.
Non, ça n'a pas été le cas pour mes sœurs, non. Peut-être que du fait que j'étais un garçon, mais moi je participais aux travaux des champs.
Mais... il n'était pas question que tu reprennes la ferme familiale.
Non. D'ailleurs, mon père ne m'a jamais dit « il faut que tu reprennes la ferme ». Parce que c'était une toute petite ferme. Et puis lui, il me voyait plus avec des études, faire autre chose. Il ne m'a jamais dit de reprendre la ferme.
Alors, tu n'es pas comme dans le Rouge et le Noir. Julien Sorel, lorsqu'il est jeune, il se fait tirer les oreilles parce qu'il lit un peu en cachette. Et lorsqu'on le trouve en train de lire, on le gronde en lui disant qu'il perd son temps. Toi, à la ferme, tu as pu lire, découvrir les grands romanciers français, la poésie, sans que ton père te dise « dis donc, bon, à rien, t'as que ça à faire, viens m'aider, il faut faire ceci, cela ».
Non, au contraire, il m'encourageait de lire. Et lui-même lisait beaucoup, mon père. Des livres d'histoire. L'histoire le passionnait. Et donc, moi, j'ai découvert au lycée les grands auteurs, les grands poètes, les grands romanciers. Et pour moi, ça a été un éblouissement.
Et les grands poètes que tu aimes, me semble-t-il, ceux d'ailleurs dont tu reproduis parfois des extraits au milieu de tes proses romanesques, oui. Ce sont surtout les poètes du 19e siècle, c'est-à-dire la poésie qui rentre dans la modernité. Oui. T'es moins attaché à un Nicolas Boileau ou même à la poésie d'un Corneille ou d'un Racine,
parce que c'est
le poème dramatique, comme on l'appelle. Tu es l'homme qui apprécie Baudelaire, Rimbaud, Verlaine.
C'est ça. Et les romantiques aussi. Voilà. Lamartine, Musset. Et puis, bien sûr, Rimbaud, qui est mon préféré.
Tu deviens donc instituteur. Tu as été en poste, notamment, je le sais, à Vézelay, mais tu as fait beaucoup de remplacements, je crois.
Oui, à Vézelay, j'ai fait un remplacement.
Et ensuite, as eu un poste fixe,
comment? Oui, j'ai été dans le canton de Vézelay. J'ai fait ma carrière dans le canton de Vézelay. Commune d'Homcy-sur-Cure et commune de Fontenay-près-Vézelay, donc à 6 km de Vézelay.
Alors depuis combien d'années maintenant es-tu en retraite et tranquillement installé dans le Morvan, au moulin de Jarles, à Aligny-en-Morvan, dans la Nièvre, hein?
Oui, je suis à la retraite depuis l'an 2000.
Ah oui, un grand vénard quand même, plus d'un quart de siècle déjà. Hein?
Bientôt, les années de retraite vont dépasser les années d'activité. Et si tu veux, c'est quand même bien parce que j'avais toujours rêvé depuis le lycée d'écrire. Et j'ai écrit de la poésie depuis le lycée. Et mon rêve, c'était d'écrire. Et puis après, je suis passé à la peinture. Mais
c'est la poésie qui t'a
oui,
conduit
la poésie,
à la peinture.
C'est ça. Voilà.
Alors, on va marquer un premier intermède musical. Et puis ensuite, on parlera un peu de ta production. Et puis, on va bien sûr s'intéresser à Mathurin, Petit Paris. C'est donc le wagon livre enregistré en public lors du Cercle des auteurs bourguignons. C'était le 19 mars dernier à la galerie de peinture de Yannick Perrin. Un événement organisé par notre ami libraire Cyril Lefebvre. on marque un premier intermède musical et c'est le public qui annonce d'une certaine manière par ses applaudissements la première virgule musicale de notre rendez-vous.
Littéraire.
Retour avec notre invité aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Jean-Louis Fèvre qui nous accompagne pour son roman intitulé Mathurin, Petit Paris, paru l'an dernier. Alors, cher Jean-Louis, l'atelier plein champ, c'est de l'auto-édition. L'atelier plein champ, c'est, c'est le prestataire qui imprime, en France d'ailleurs, tous tes livres. Pourquoi l'auto-édition ? Et pourquoi pas, j'allais dire, l'audace de proposer, surtout que tes textes, tu sais combien j'aime ce que tu écris. Bon, c'est très subjectif, mais je le dis et c'est très sincère. Pourquoi ne pas avoir frappé à la porte de maisons d'édition qui accepteraient des beaux textes ciselés, poétiques, toujours avec le lyrisme, beaucoup de sentiments, du tragique, de la malédiction, de la passion, des animaux?
Ben, j'ai essayé à une époque, mais j'ai eu pas mal de refus, donc je suis resté à l'auto-édition. Parce que l'atelier plein champ, c'est Edmond Thomas, malheureusement qui est décédé, mais qui me faisait tout. Parce que moi, je lui envoyais le manuscrit écrit à la main. Parce que je ne sais pas, et puis moi, je ne peux pas taper à la machine. Donc, j'écris tout à la main. Parce que le geste d'écrire est important pour moi. Donc, je lui envoie le manuscrit. Et après, il fait tout. Il fait la mise en page, il fait tout. Et puis après, il envoie à l'imprimerie.
Alors, il est vrai que tes livres sont soignés. Ils sont élégants, avec souvent sur la couverture une peinture qui est de toi. C'est pas tout à fait le cas pour Mathurin Petit Paris, hein. Mais on a aussi une belle qualité de papier. Alors, je ne sais pas, il y a un ancien éditeur qui est là, j'aimerais qu'il confirme peut-être, mais on peut dire que tes livres sont des beaux livres. C'est des livres de peintre.
Oui, j'aime
ils
bien.
Ils sont élégants, ils sont soignés.
Le papier, et puis il y a des couvertures à rabat. Oui. C'est très plaisant, ça. Et puis le papier, c'est du beau papier. Et moi, c'est toute une collection. Je suis fier de ma collection.
Alors, ils ne sont pas si chers que ça, d'ailleurs, tes livres. Tu les vends essentiellement dans les salons du livre, des dépôts en librairie. Hein. Cyril Lefebvre, à ce mur en Aussoir, en a. Je sais que tu en as beaucoup à la librairie d'Avallon.
Oui.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent. Je suis passé, on m'a dit, hein, mais il y a beaucoup de gens qui suivent Jean-Louis Fèvre et qui aiment ses écrits. Et je peux largement le comprendre. Mais où en poses-tu d'autres ? À Nevers, à...
Non, pas à Nevers. Alors, dans les librairies, à Autun, à Château-Chinon.
Librairie Le Goût des Mots.
Le Goût des Mots. À Montbard, la librairie Solexia. À Corbigny, Algofay, à Avallon, l'autre monde, dans les maisons de la presse également, à Saulieu.
Oui. J'ai mes livres. Alors, on ne va pas énumérer tous les. Mais oui. Je sais bien que tu ne vends pas ces romans pour t'enrichir. Ce n'est pas du tout ta préoccupation. Tu es dans le partage d'une esthétique, d'une écriture et du beau. Du bien et du bon. Mais aujourd'hui, ça fait quand même plus de 20 ans que tu écris. Tu n'as pas le regret d'avoir une compilation de tes romans, d'autant plus que certains ont reçu des prix, d'avoir une anthologie de textes poétiques ou certains de tes aphorismes dans une grande maison d'édition avec une distribution nationale. Tu es trop modeste.
Je vais tenter, peut-être.
Tu es trop modeste, en fait. Il y a quelque chose chez toi, une puissance de l'écriture et d'un côté une grande humilité. Ça s'entend aussi parfois quand tu parles.
Oui,
tu es toujours doux et humble. Tu n'es pas dans le moi-je.
Parce que si tu veux, je sais un peu écrire, sais écrire. Je ne sais pas parler de mes écrits. Je ne sais pas parler.
En tout cas, tu reçois des récompenses.
C'est un problème, ça.
Tu as reçu.
Je suis mutique. De naissance.
Oui, oui. le Fou de Verdun, en 2018, a reçu le prix littéraire du Morvan Henri Perruchot. En 2022, pour la trilogie des loups, tu as reçu, et tu es allé chercher le prix à Paris, tu as reçu le prix Victor et François Théodule d'Aubigny dans le cadre du prix animalier Fernand Méry. Et puis en 2023, le prix Nevers Cité littéraire pour l'esprit de la montagne. Alors, Mathurin Petit Paris. Enfin, on parle de Mathurin. D'abord, il faut rappeler ce que cette expression Petit Paris.
C'est ça. Alors, d'abord, peut-être parler des nourrices, parce que les nourrices, réputées, les Morvandelles, nourrices, étaient réputées pour leur poitrine généreuse, leur bon lait.
Leur beauté.
Et elle faisait le trajet Morvan-Paris. Voilà. Tandis que les petits Paris, c'était le sens inverse. C'était Paris-Morvan. Voilà. Il y avait un trajet comme ça et un trajet dans l'autre sens.
C'est le trajet que le petit Jean Genet a fait jusqu'à Aligny-en-Morvan.
Absolument.
C'est le même trajet que fait ton héros. C'est pas du tout Tu ne t'es pas inspiré de la vie d'un ami qui aurait été un petit Paris et qui t'aurait raconté un peu son parcours. Là, on est dans la pure fiction. Un peu calqué sur la jeunesse de Jean Genet.
Oui, Jean Genet m'a un peu inspiré, mais c'est de la pure fiction.
Alors, on a Mathurin, donc, qui par un hiver glacial 1879-1880, donc naît... Père inconnu, sa mère qui en plus est malade, ne peut pas le garder, et elle le confie. Mais c'est un enfant qui est né. Alors, il a, en grandissant, une petite anomalie congénitale, d'une part, D'autre part, il est né de manière originale parce qu'il est né coiffé.
C'est ça.
Je te laisse expliquer, oui. Jean-Louis, ce que veut dire être né coiffé.
On dit que ça porte chance. Il est né avec le placenta sur la tête. Voilà. Et on dit que ça porte chance.
Alors, notre petit Mathurin se retrouve dans une famille nourricière. Ce sont des paysans, Gilberte et Paul Renard. Ce sont des paysans bon, qui tirent le diable par la queue et qui sont très heureux de toucher un peu d'argent de l'assistance publique en recueillant cet enfant. Mais alors, c'est le cas de Jean Genet, le romancier, poète et homme de théâtre que nous connaissons. Le petit Mathurin va se retrouver dans une famille aimante et non pas ces horribles familles, parce qu'il y a eu des Thénardier aussi.
Oui, exactement. Il y avait les deux cas. Alors, Mathurin est recueilli par des métayers. Ils ne sont pas propriétaires de leur ferme, ce sont des métayers. Et comme ils n'ont pas d'enfants, la Gilberte, donc la nourrice, l'accueille comme son propre fils, son propre enfant. Donc, lui, il tombe bien dans une famille, alors que d'autres étaient maltraités parce qu'on les faisait travailler comme des bêtes de somme. Et Mathurin a cette chance d'être bien tombé dans sa famille nourricière.
Alors, ce petit Mathurin, bon, il a un premier contact avec un livre. Il y a quelques livres dans cette famille.
Oui.
Paysanne, pauvre.
C'est ça.
Quelques livres sans doute un peu poussiéreux qui sont là par hasard. Il en choisit un. Mais je ne vais pas trop raconter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien. Je dirais le roman, la fiction annonce peut-être la vie future de Mathurin. Il y a l'idée d'un destin qui est écrit dans les pages de ce livre.
C'est ça. Alors Mathurin, il choisit, il ne sait pas lire. Hein. Bon, il ne sait pas lire, il est jeune. Il voit ses livres sur l'étagère dans la métairie, dans la cuisine. Ils sont tout poussiéreux. Personne ne lit ses livres, en fait. Et il choisit un livre, il est attiré par les livres, et il en choisit un peu comme il a une sorte de prémonition en choisissant ce livre, qui s'appelle « Le berger Jérémie ». Voilà. Mais il ne sait pas, il sait pas ce qu'il y a dedans, puisqu'il ne sait pas lire.
Oui. Alors ça... la petite Gilberte lui raconte le début de l'intrigue.
Voilà. Alors, il l'appelle Mam et il lui dit « Mam, je voudrais bien que tu me lises le livre que j'ai choisi. » Parce qu'il garde tout le temps avec lui. Même la nuit, il dort avec
lui. Oui, il va garder les moutons.
Toute sa vie,
il a le livre.
Il l'accompagnera partout. Ouais. Et donc... il demande à sa nourrice de lire ce livre. Alors elle dit, mais tu sais, je ne sais pas lire non plus. Moi, je ne suis pas allé à l'école parce que c'était loin et je ne suis pas allé à l'école. Et par contre, je peux t'en dire quelque chose du début du livre. Alors elle lui raconte le début, sans le lire, hein, bien sûr, elle lui raconte. Et donc, Mathurin, il s'aperçoit que ce qu'elle raconte, c'est un peu lui, sa vie. Elle raconte que Jérémie était comme ça, placé, et puis d'un seul coup, il se dit, mais c'est ma vie, c'est le début de ma vie que me raconte ma nourrice. Et en fait, il va chercher tout le temps à savoir ce qu'il y avait d'écrit dans ce livre.
Voilà, puisqu'en fin de compte, son destin se trouve dans les pages de ce livre, d'une certaine manière.
Exactement.
Et donc, s'il apprend à lire, forcément, le destin va lui être révélé. C'est d'ailleurs une jeune fille qui lui apprendra à lire. Mais je n'en dis pas plus. En tout cas, dans l'immédiat, on va marquer un nouvel intermède musical. On parlera de Jean Genet. J'aimerais qu'on revienne sur Jean Genet et Aligny en Morvan. Je rappelle que c'est Jean-Louis Fèvre qui nous accompagne jusqu'à midi dans Wagon Livre, une émission que nous avons enregistré le 19 mars 2026 dans la galerie de peinture de Yannick Perrin, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. On revient juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
En voyant naître cet enfant, je voyais du fin fond des siècles tous mes ancêtres, tous mes parents. Dans ce petit corps renaître, je revoyais leur maison, aujourd'hui en démolition, et les buildings essayaient de nous la faire oublier. Par quel hasard ce bel enfant a survécu à toute guerre, guerre de Troie, guerre de cent ans, échauffour et meurtrière? Par quelle fissure du temps s'est-il glissé jusque maintenant, défiant la mort, le fer, le vent, Hérode et les tueurs d'enfants? Que le vent souffle d'Afrique, qu'il souffle du nouveau monde, ce son fusil qui crépite, bazooka, pampan qui gronde, échapperons-nous, dites-moi, à cette grande razzia? Mon enfant, viens dans mes bras, fais dodo tout contre moi. Fait florès aujourd'hui. Le trac du monde se détraque. Je ne sais quelle partie prendre face à la grande mitraque d'un monde malade à pierre fendre. J'essaie vite en cachette avant qu'on ne coupe l'air bête de bâtir une maison sur le sable de mes chansons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Louis Fèvre nous accompagne pour Mathurin Petit Paris. C'est en auto-édition. On fait comment, Jean-Louis, pour... Alors, bien sûr, on peut aller dans les lieux où les livres sont déposés, mais ceux qui nous écoutent dans le Finistère, en Gironde, en Corse, et qui veulent acheter le livre de Jean-Louis Fèvre, comment font-ils? Ils écrivent au Moulin de Jarl?
Non. Parce que sur Internet, j'ai tous mes livres.
Donc on peut les commander en passant.
On peut les commander dans les librairies ou chez moi.
Alors, Jean-Louis, tu vis avec Joseline dans un joli ancien moulin, le moulin de Jarl, qui se situe donc dans la Nièvre, sur la commune de Aligny-en-Morvan. Aligny-en-Morvan, pour beaucoup de gens, c'est le lieu où l'écrivain Jean Genet a passé les 12 premières années de sa vie. J'aimerais que tu nous parles un peu de Jean Genet, parce que d'abord tu as très rapidement ouvert l'émission en citant son nom, et je crois savoir que lui aussi a beaucoup d'importance pour toi.
Oui. Alors, il est né donc à Paris, de père inconnu. Il est né le 19 décembre 1910. Sa mère, qui s'appelait Camille Gabrielle Genet, avait 22 ans quand elle a accouché de Jean. Elle avait un salaire modeste et ne pouvait pas payer la nourrice pour s'occuper de Jean Genet quand elle travaillait. Alors, elle décide de le placer à l'assistance publique, mais avec l'idée, toujours l'idée, de un jour le reprendre. C'était, pour elle, c'était momentané. Voilà. Et donc, il va s'avérer que, il va rester à l'assistance. Et Jean Genet a toujours eu l'idée de communiquer avec sa mère, de retrouver sa mère. Ça l'a poursuivi toute sa vie. Et il n'a jamais eu de nouvelles de la mère, donc ça a été pour lui un traumatisme.
À Aligny en Morvan, donc le petit Jean Genet reste chez les Régnier.
C'est ça.
Hein, où ça se passe plutôt très bien. Oui. Il est bien traité, il est aimé. Et puis il y a, Jean-Louis, j'aimerais que tu racontes cette anecdote. Toi, l'ancien instituteur, il y a l'anecdote de la rédaction.
Absolument.
Excellente, brillante rédaction du petit Jean Genet. Félicité devant toute la classe. Je crois même que l'instituteur lit la rédaction de Jean Genet à la classe entière.
C'est ça.
Et c'est là, quelque part, que rentre dans la vie de Jean Genet la méchanceté, l'injustice et le fait d'être montré du doigt comme différent.
Absolument. Alors, donc, il fréquente l'école communale d'Aligny, en Morvan. Et c'est un élève brillant, d'ailleurs, qui a eu le certificat d'études avec... il était le premier, voilà. Et un jour, le maître demande aux élèves de raconter leur maison, de parler de leur maison où ils habitent, une sorte de rédaction. Donc les élèves font la rédaction, Jean Genet fait sa rédaction... Et à la fin, le maître dit, le texte de la rédaction de Jean Genet est très belle et je vais vous la lire. C'est, ce qu'il a écrit, c'est magnifique. Le maître, il lit le texte que Jean Genet a parlé de sa maison. Et à la fin, les enfants, au lieu d'applaudir, ils auraient pu applaudir devant un beau texte, parce qu'il avait déjà, le sens de la littérature. Et les enfants lui disent, ils font des reproches. « Ah, c'est pas ta maison, ce sont pas tes parents, voilà. » Il l'accable en disant des choses comme ça, et ça a été... la première humiliation, une des premières humiliations pour Genet.
Qui ensuite, on le sait, commettra des vols, connaîtra le bagne d'enfants, puisque ça a existé en France. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur Mathurin Petit Paris. J'ai dit au début de l'émission que Jean-Louis Fèvre, c'est aussi un poète, c'est également un peintre, et il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, c'est une écriture très colorée. Moi, je relève toujours, c'est mon côté ancien professeur de français, à aimer relever des petites citations. Je vais vous lire quelques phrases où il y a des notions colorées. Et j'adore ce qu'écrit Jean-Louis Fèvre. Voilà, je le répète une fois de plus. Par la fenêtre, la lune montre son gros œil blanc. Une lumière rousse inonde l'horizon. À l'est, le ciel s'est maquillé de rose. Dans un ciel sans nuages, de subtiles lueurs roses annoncent la venue du soleil. Les oiseaux se préparent à la nuit. Leur chant diminue d'intensité. Leurs couleurs s'estompent. Et puis une dernière petite phrase, l'horizon où moutonnent les collines blanches. Alors, bien sûr, et même... je crois que c'est dans la trilogie des loups, je me rappelle même le vent. Le vent est violet. Et je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué, la colère aussi a une couleur. Elle n'est pas rouge, comme on dit rouge de colère. Mais non, chez Jean-Louis Fèvre, on est violet de colère. Ça, c'est vraiment tout à fait original. Alors, chez toi, on retrouve toujours, bien sûr, une écriture colorée. Ça me paraît... j'allais dire la survivance et l'omniprésence du désir de peinture. Tu écris comme tu peins, tu vois tout en couleur, rien en noir et blanc.
Oui, c'est ça. J'aime la couleur. D'ailleurs, dans mes peintures, il y a beaucoup de couleurs.
Mais même vestimentairement, tu aimes la couleur.
Oui, j'aime la couleur, absolument. Et donc, j'aime bien aussi, dans mes romans, mettre de la poésie, voilà.
Alors, il y a, très effectivement, important. Dans Mathurin Petit Paris, des extraits de poésie, de poèmes. Oui. Et, cher Jean-Louis, à toi de lire peut-être un peu certains de ces extraits. Alors,
oui.
Je vais te redonner les pages, à moins que tu les aies.
Je les ai.
Tu les as. Alors,
si
je te laisse le soin de partager quelques moments poétiques avec notre public, qui écoute d'ailleurs avec beaucoup d'appétit.
Pourquoi je mets comme ça des fragments de poésie? C'est parce que quand j'écris, bon, j'écris, les mots viennent comme ça, et d'un seul coup, il y a un mot qui me fait penser à un poème. Tout de suite, le mot m'évoque un poème. Et c'est pour ça que j'ai mis dans les premiers chapitres, en tête, des fragments de poèmes. Voilà. Par exemple, là, alors, quand j'ai écrit le papa nourricier de Mathurin, Paul Renard, était donc un métayer, et il disait que les outils avaient une âme. C'était le prolongement de la main, et ils avaient une âme. Et donc, quand j'ai écrit ça, j'ai tout de suite pensé à Lamartine avec le court texte que je vais vous lire. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? Alphonse de Lamartine.
J'ai dit, en te laissant tourner les pages de la prochaine extrait de poésie, dans un autre de tes ouvrages, tu cites Vincent Van Gogh. Là, ce n'est pas de la poésie. Mais par exemple, puisque j'ai parlé beaucoup de cette écriture colorée, tu reproduis ce propos de Vincent Van Gogh. « J'ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines. »
Oui, ça c'est dans le Meneur de loup, en exergue. Voilà.
Alors, un petit Tristan Corbière.
Oui, un petit Tristan Corbière, parce que Mathurin, donc dans la cuisine, pendant la veillée, il est subjugué par le feu de cheminée qui projette des ombres fantasmagoriques. Et il est subjugué par les flammes.
Les étincelles.
Les étincelles. Et il dit à sa mère nourricière... « Mame, je voudrais bien avoir des étincelles au bout des doigts, et surtout la nuit. » Et là, ça m'a fait penser au poème de Tristan Corbière. « Il fait noir, enfant voleur d'étincelles. Il n'est plus de nuit, il n'est plus de jour, dors, en attendant venir toutes celles qui disaient « jamais », qui disaient « toujours, Tristan Corbière.
Alors Rimbaud est très représenté.
Oui, alors là, oui.
Hein, là, Rimbaud, l'incontournable.
Absolument. Alors, donc, Mathurin et sa nourrice récoltent des choux l'hiver. Et bien sûr, il y a des corbeaux qui viennent sur le champ et qui abîment à coups de bec et abîment les choux. Et tout de suite, j'ai pensé à Rimbaud, les corbeaux. C'est un fragment, hein. Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus, sur la nature défleurie, faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux. Rimbaud. Et c'est ce qui se passe, les corbeaux viennent dans le champ de choux, abîmés avec leur bec, abîmés la récolte de choux.
Alors, confirmation aussi de cette écriture colorée chez Jean-Louis Febvre, c'est les fameuses l'alphabet coloré de Rimbaud, Jean-Louis, bien connu, je vais pas te priver de cette lecture salvatrice pour toi, salutaire.
Donc, c'est dans le rêve de Mathurin, parce que Mathurin, à un moment, il rêve. Alors, il voit, il marche, et puis il y a des corbeaux qui le suivent. Et d'un seul coup, il a toujours son livre, parce que son livre ne quitte jamais. Et d'un seul coup, les lettres de son livre s'envolent, dans son rêve. Hein. Elles s'envolent, elles montent dans le ciel. Et les corbeaux se jettent sur ces lettres et déchiquettent toutes les lettres. Qui n'ont pas de couleur. Et Ils gardent que les lettres qui ont de la couleur, les voyelles, les consonnes colorées. Et c'est là une ligne de Rimbaud qui donne des couleurs aux voyelles. A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelle. Arthur Rimbaud.
Alors, la poésie, elle est incontournable. Je signale au passage, ce n'est pas l'objet de l'émission, là ce soir, nous parlons de Mathurin Petit Paris, mais l'an dernier, Jean-Louis Fèvre a fait paraître un recueil de poèmes, Le pourquoi des choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en faire un prochain numéro de Wagon Livre durant l'été, et j'espère que j'irai enregistrer l'émission au Moulin de Jarles. Voilà. Le petit Mathurin de ton roman, il a parfois, tu l'écris, il est frêle comme un bohémien. Tu es terriblement marqué par les personnages nomades qui sont nombreux dans tes romans. Pas tellement dans celui-ci, encore que les nomades, ça peut être les Morvandiaux, ont été un peu des nomades. Les nourrices sont allées à Paris faire des nourritures. Il y a ces Morvandiaux solides, galvachés, qui sont partis travailler dans les Ardennes ou dans les pays où il y avait de grandes forêts. Le nomadisme te plaît et quand tu étais petit garçon, tu serais facilement parti avec ce qu'on appelait des romanichels ou des manouches, tu serais parti dans leur roulotte sur les chemins, ça t'aurait plu.
Oui, c'était mon rêve de voyager en roulotte, de partir comme ça sur les routes, sans but en fait, mais c'est pour moi c'était merveilleux.
Mais à l'heure actuelle, ton nomadisme, il passe par la peinture, le rêve, la poésie et l'écriture.
Absolument. Voilà. C'est l'écriture qui me fait voyager. Parce que le Morvan, a été ma source d'inspiration principale. Mais j'ai voyagé ailleurs, en esprit, bien sûr. Puisque j'ai écrit. Pour le Morvan, j'ai écrit donc la trilogie des loups, que tu connais bien.
Oui.
Morvan, année 1950, et Les saisons de Solange. Alors là, c'est un livre important pour moi, parce que j'ai écrit un premier tome, Le fou de Verdun. Un deuxième tome, La ferme des Bruyères, et un troisième tome, Dessin de Solange. Parce que cette Solange était une héroïne qui m'a beaucoup marqué. Et je n'ai pas pu la quitter, donc je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout de sa vie, mort naturelle. Parce que mon problème, c'est pas un problème, mais... Quand j'écris un livre, alors, je crée des personnages, et je trouve ça magique de créer des personnages, c'est quand même fabuleux, ça.
Mais, et tu n'arrives pas à t'en détacher, quoi.
Je les fais vivre, oui. Je les fais aimer, je les fais tout ça. Et à la fin, j'ai du mal à les quitter. Je peux pas. Je les ai créés, et d'un seul coup, il faut que je les laisse tomber. Non, je peux pas. Alors, j'écris des suites. J'ai toujours écrit des suites parce que je voulais encore faire vivre ces personnages. Et ça, c'est complexe.
Alors, il y a quelque chose d'extrêmement puissant et je dirais des éléments du vivant auxquels je suis très sensible, c'est ton attachement, ton respect pour la faune et la flore. Les animaux sont très très présents. Il y a toujours des animaux. Hein. Il suffit de lever un peu la tête, il faut regarder au sol, même dans les choux, il y a des petites chenilles. Il y a tout un univers du vivant que tu respectes. Je rappelle d'ailleurs que tu as donc été récompensé par ce prix, le prix Victor et François Théodule d'Aubigny, dans le cadre du prix animalier Fernand Méry. C'est Gérard, en fait, c'est bien cela, on va dire... Pour faire plus simple, l'école vétérinaire de Maison Alfort. C'est voilà, ça. Prix que tu es allé chercher à Paris, qui t'a récompensé en 2022 pour la trilogie des loups. Tu n'aimes pas l'univers des chasseurs? Tu n'aimes pas qu'on tue les animaux. Non. Je pense à ta tiennette dans l'esprit de la montagne, qui effectivement veut absolument protéger les chamois contre les chasseurs qui veulent... Voilà. Alors, il y a un chamois albino. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais...
Donc, voilà, je suis... pareil pour les loups. Je trouve que le loup a sa place, comme toute... tous les animaux sauvages.
Oui, alors tu sais qu'il y a grand débat. Ce qui est magnifique aussi, là, dans Mathurin, ce qui est joli, alors il y a les lapins, il y a les poules, il y a le chien, Tom, hein, c'est un bas rouge d'ailleurs. Oui. Il y a même, tu as même mis une petite note, Colette dit de cette race de chien que c'est le gentilhomme campagnard. C'est ça. Et alors, il y a un très joli petit passage, j'aimerais que tu nous lises. C'est la description, la présence réconfortante. C'est page 37, les chats. Les chats qui dorment dans le salon, enfin dans le salon, dans la pièce commune de la ferme du couple Renard, d'ailleurs. C'est amusant que tu les aies appelés Renard. Moi, j'ai pensé à Jules Renard aussi.
C'est Gilbert et Paul Renard.
Oui.
Donc, je lis là les chats.
Oui, à partir de devant la grande cheminée.
Devant la grande cheminée, Mathurin et sa nourrice, après une journée de dur labeur, se reposent. Un gros chat noir dort sur la huche à pain. C'est Thor, donc le nom du chat. C'est Thor, le matou de la maison. Très casanier, il ne sort que rarement. Une fois dehors, il s'empresse de faire ses besoins et demande à rentrer. Près de l'entrée, couché en position de sphinx, câline, une chatte au pelage tigré, miaule à petits coups. Elle attend qu'on lui ouvre la porte. Elle passera la nuit dehors à chasser les rats et les mulots qui pullule dans la métairie.
Alors ce petit passage d'une vie simple, rustique, dominée par la sérénité et le spectacle de ces chats, c'est tout cet univers aussi du monde rural, paisible, qui te ressemble bien. Ce monde des veillées, ce monde où il y a encore des colporteurs. Donc c'est un Morvan riche encore d'une belle activité humaine, avec des personnages, bon, certains sont maudits, certains ont de la chance. Il y a cet univers du vivant exceptionnel qui apporte beaucoup à l'homme et que tu sembles nous dire qu'il faut le protéger, le respecter avec la plus grande précaution. Il y a toujours la poésie, la couleur. Mathurin Petit Paris, c'est le destin d'un petit jeune homme. Tu as eu des élèves, lorsque tu étais instituteur, qui étaient des enfants placés dans des familles ?
Oui, beaucoup. Au début, il y avait presque autant d'enfants de l'assistance que d'élèves d'enfants du pays.
On est bientôt au terme de l'échange. Toi qui as été instituteur, qui a fait toute une carrière d'instituteur, on est en 2026, tu vois un peu comment le monde tourne, comment fonctionne la société. Retraite bien méritée, dans un havre de paix, entouré d'animaux, de couleurs, Joseline à tes côtés, le moulin de Jarles. Le regard que tu jettes sur l'éducation et les enfants, les écoliers de ton époque n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui.
Oui, absolument. Mais, j'ai beaucoup aimé mon métier au début, hein, longtemps d'ailleurs. Mais par la suite, j'aimais mon métier. Et par la suite, j'avais hâte de partir, d'arrêter. Et je pense que maintenant, les enseignants ont bien du mérite, car c'est très compliqué d'enseigner actuellement. Dans les classes, je crois que les enseignants partent au travail la peur au ventre.
Bon, en tout cas, on n'a pas la peur au ventre. Quand on a un de tes textes entre les mains ou un recueil de poèmes, c'est toujours un grand plaisir intellectuel et esthétique. Je rappelle donc Mathurin, Petit Paris, le dernier roman de Jean-Louis Febvre. Alors, il faut aller découvrir l'histoire, hein, parce que ce petit Mathurin, bon, il y a une forme... Il a de la chance au début, on est inquiet pour lui, mais finalement, tout va évoluer plutôt favorablement. C'est jamais... Tu nous fais jamais des fins épouvantables.
Quelquefois, on m'a reproché de faire mourir les gens à la fin.
Ah ben oui, mais c'est la vie.
Et Mathurin, c'est une fin heureuse.
Je rappelle aussi, alors il y a beaucoup de tes romans, je rappelle quand même Le Fou de Verdun, prix littéraire du Morvan Henri Perruchot en 2018. Alors Le Fou de Verdun, là on est sur une commune du Morvan, la Vaud Frétois, où Le Fou de Verdun, rapidement, polysémie. Tu as joué sur la polysémie.
C'est ça.
Rapidement, Jean-Louis, sur le Fou de Verdun, parce que c'est très intéressant.
Oui, parce que quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, quand j'ai vu le panneau sur la route entre Planchers et Château-Chinon, un panneau où il y avait écrit « Le Fou de Verdun ». Alors, moi, je me suis demandé, le Fou de Verdun dans la Nièvre, c'est quoi ? Je pensais que c'était un soldat rentré fou de la bataille de Verdun. Pas du tout. C'est là que j'ai eu l'idée du livre. Et je fais croire au début de mon livre, dans Le Fou de Verdun, que c'est un soldat qui rentre. Il rentre abîmé, il rentre dans sa ferme, il est abîmé par l'horreur des tranchées, les horreurs qu'il a vécues dans les tranchées. Et en fait, je mets le lecteur sur une fausse piste en faisant croire que le Fou de Verdun, c'est ce soldat qui rentre chez sa femme, dans sa ferme, mais c'est pas ça du tout.
Merci Jean-Louis. On a ouvert l'émission avec Jean Genet. Je termine avec une citation de Jules Renard. Alors Jules Renard qui n'était pas Morvan du haut, hein. C'est Chitry-les-Mines, c'est pas très loin de Corbigny, c'est ville porte du Morvan. Hein. Attention, Jules Renard qui fut d'ailleurs maire de Chitry-les-Mines en 1904. Et je termine avec lui, parce que ça va bien avec ce que l'on trouve dans la richesse de tes romans. Jules Renard écrivait « Regardez la nature, ça vaut tout de même mieux que de traduire Virgile ». Mathurin, Petit Paris, le dernier roman de Jean-Louis Febvre. C'est la fin de ce wagon-livre enregistré dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons le 19 mars dernier. Merci, cher Jean-Louis. Merci à vous, le public. Et je salue nos auditrices et auditeurs. Et je leur donne rendez-vous samedi prochain et toujours les émissions en podcast sur yannickpetit.fr. Au revoir et à samedi prochain.
Merci, Yannick.